Nietzsche contre Wagner, le psychologue prend la parole. Plus un psychologue de naissance, fatal et divinateur des âmes, se tourne vers l'étude des hommes et des cas exceptionnels, plus le danger est grand pour lui de suffoquer par la pitié. Il a besoin de dureté et de sérénité plus qu'un autre homme, car la corruption, la course à l'abîme des hommes supérieurs est la règle, et il est terrible d'avoir une pareille règle toujours devant les yeux. Les multiples tortures du psychologue qui a découvert cette ruine, qui découvre une fois, puis presque toujours à nouveau, à travers l'histoire, cet état désespéré que l'homme supérieur porte dans son âme, cet éternel « trop tard pour toute chose », ces tortures peuvent devenir peut-être un jour la cause de sa propre perte. On s'apercevra presque toujours chez le psychologue d'une perfide prédilection à fréquenter des hommes ordinaires et bien équilibrés. On devine par là qu'il a toujours besoin de guérison, qu'il lui faut une sorte de fuite et d'oubli à l'écart de ce que les analyses et les dissections de son métier ont imposé à sa conscience. La peur de sa mémoire lui est particulière. Le jugement d'autrui le pousse souvent à se taire. Il écoute, le visage immobile, comment les autres vénèrent, admirent, aiment, glorifient, là où il s'est contenté de voir. Ou bien encore, il cache son étonnement en s'accommodant exprès d'une opinion de premier plan. Peut-être le côté paradoxal de sa situation touche-t-il de si près l'épouvantable qu'il est pris d'une grande pitié et d'un grand mépris aux endroits où les gens instruits ont appris à mettre leur grande vénération. Et qui sait si, dans tous les cas importants, il n'arriva pas que l'on voulût adorer un dieu et que ce dieu ne se trouva être qu'une pauvre botte à sacrifice. Le succès fut toujours le plus grand menteur, et l'œuvre, l'action sont elles aussi des succès. Le grand homme d'État, le conquérant, l'explorateur sont travestis, enveloppés par leur création jusqu'à être méconnaissables. L'œuvre, celle de l'artiste, du philosophe, invente seulement celui qui l'a créé, celui qu'on suppose l'avoir créé. Les grands hommes, tels qu'on les vénère, se trouvent n'être après coup que de mauvaises petites fables. Dans le monde des valeurs historiques, règne le faux monnayage. Le psychologue prend la parole. 2. Ces grands poètes, par exemple, c'est Byron, c'est Musset, c'est Poe, c'est Leopardi, c'est Kleist, c'est Gogol. Je n'ose pas prononcer de noms beaucoup plus grands, mais c'est à eux que je pense. Tels qu'ils sont, tels qu'ils doivent être, hommes du moment, sensuels, absurdes, multiples, légers et soudains dans la méfiance et dans la confiance, avec des âmes dont souvent ils veulent cacher quelques fêlures, se vengeant souvent par leurs œuvres d'une souillure intérieure, cherchant souvent, par leurs essors, l'oubli d'une mémoire trop fidèle, des idéalistes, parce qu'ils se trouvent tout près du marécage. Quelle souffrance ne cause-t-il pas à celui qui les a devinés, ces grands artistes, et en général, tous ceux que l'on appelle hommes supérieurs? Nous sommes tous des avocats de la médiocrité. Il est facile de comprendre que la femme qui est clairvoyante dans le monde de la souffrance et avide d'aider et de secourir, hélas, bien au-delà de ses forces, éprouve justement pour eux ces élans de pitié sans bornes. Que la foule, avant tout la vénération de la foule, comble d'interprétations indiscrètes et présomptueuses. Cette pitié se trompe régulièrement sur sa force. La femme voudrait croire que l'amour peut tout. C'est là sa superstition à elle. Hélas, celui qui connaît le cœur humain devine combien même le meilleur et le plus profond amour est pauvre, maladroit, présomptueux, susceptible d'erreurs, combien il est plutôt fait pour détruire que pour sauver. Le psychologue prend la parole. 3. Le dégoût et l'orgueil spirituel de tout homme qui a profondément souffert, c'est la faculté de souffrir qui détermine le rang. La certitude frémissante dont il est tout entier pénétré et teinté, cette certitude de savoir, de par sa douleur, plus que ne peuvent savoir les plus intelligents et les plus sages, d'avoir été familier et maître de mondes éloignés et terribles dont vous ne savez rien. Cet orgueil spirituel est silencieux, cette fierté de l'élu de la connaissance, de celui qui est initié et presque victime, a besoin de toutes les sortes de déguisements pour se protéger de l'attouchement de mains importunes et compatissantes, et surtout de ce qui n'est pas son égal par la souffrance. La profonde douleur rend noble, elle sépare. Une des formes de déguisement les plus subtiles, c'est l'épicurisme et une certaine bravoure affectée du goût, qui prend légèrement la souffrance et se défend de tout ce qui est triste et profond. Il y a des hommes gais qui se servent de la gaieté, parce que cette gaieté les fait mal comprendre. Ils veulent être mal compris. Il y a des esprits scientifiques qui se servent de la science parce qu'elle les fait paraître gais et parce que le caractère scientifique fait croire que l'homme est superficiel. Ils veulent inciter à une conclusion erronée. Il y a des esprits libres et audacieux qui voudraient cacher et nier qu'au fond, ils sont des cœurs irrémédiablement brisés. C'est le cas d'Hamlet. Et alors, la folie elle-même peut être le masque pour un savoir fatal et trop certain.